L'identité racine, roots? Non, l'identité relation.
Et je le dis souvent, j'écris en présence de toutes les langues du monde, même si je n'en connais aucune. Et elles sont là, elles peuplent mon imaginaire, elles forment ma sensibilité, même si je ne les connais pas.
Prénom?
Édouard. Glissant.
Date de naissance.
21 septembre 1928, en Martinique. C'est sa mère, pauvre, exigeante, qui l'élèvera. Et elle lui dira, quand il partira à Paris, « Tu raconteras notre vie. »
Ses études.
Licence de philo à la Sorbonne, ou bachelor, ses prix d'amitié pour lui. Il fréquente les différents milieux qui témoignent de la présence noire en France.
Une activité politique.
Pas facile à documenter. Fonde un front antillo-guyanais pour l'autonomie. À la frontière algéro-marocaine, aide des Antillais à quitter l'armée française. Voyage plus d'une fois à Cuba.
Enseignement.
Il crée en 1967 un institut martiniquais d'études pour suppléer à l'absence d'université. Aux États-Unis, il sera professeur de littérature à l'université de Baton Rouge en Louisiane, puis à celle de New York.
Ses œuvres.
Oh, un cycle romanesque, une série de manifestes depuis le discours antillais 1981. Ses poétiques culminent avec son traité du tout-monde. Le tout-monde, c'est notre univers pluriel, le plurivers, tel qu'il perdure dans ses paysages, échange en échangeant.
A-t-il reçu des prix?
Le Renaudot, dès ses 30 ans, mais le Nobel lui échappera à son grand dam en 1992, attribué à un Antillais mais anglophone, Derek Walcott.
Et sa mort?
Le 3 février 2011, à Paris, à 82 ans, au sommet de sa gloire.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Le berceau, l'enfance de son présent, cela a toujours été les paysages de la Martinique. Et le personnage déterminant, sa mère, Adrienne, une lavandière dure à la tâche qui lui inspirera toujours la vénération et même, à un âge avancé, la crainte. La reconnaissance par son père viendra un peu tard. Il portera le même nom et le même prénom que lui, ce qui lui fera une drôle d'impression au moment de l'enterrer. Son père l'aura fait entrer dans les habitations des planteurs puisque gérer, intendant, intermédiaire entre les ouvriers et les propriétaires, il avait accès aux deux mondes si différents.
Mon père était gérer de plantation. Mon père et ma mère ne vivaient pas ensemble. Je vivais avec ma mère, ce qui arrive très souvent en Martinique, ce qui arrivait en ce temps-là. Et j'allais chez mon père dans les campagnes, sur les plantations, bon, trois ou quatre fois par an, ça, à toutes les vacances. Et je suis peut-être le dernier écrivain qui ait vécu réellement dans son enfance, cet univers des plantations. Et la chose fantastique, c'est que tous les jours, il y avait un travailleur agricole, c'était plus des esclaves, bien entendu, l'esclavage a été aboli en 1848, il y avait un travailleur agricole qui racontait des contes, les fameux contes créoles. Et un flambeau était planté à côté de lui, dans la nuit tropicale, et tous les petits-enfants que nous étions autour de lui et les autres travailleurs de l'habitation. Et le conte créole qui marquait l'atmosphère des plantations a marqué mon enfance. Et ça, c'est très important parce que il y a là quelque chose qui m'a fait considérer d'une autre manière la langue française. On nous enseignait la langue française à l'école d'une manière terrifiante. Quand j'étais au cours moyen 2, je faisais pas un quart de faute dans une dictée. Ça n'existe plus de nos jours, nulle part. Mais l'habitude du conte créole a fait que quand j'ai commencé à écrire, j'ai essayé tout de suite. Mais on peut dire que c'est par instinct. On peut pas dire le conte créole ne vous impose rien. Ce n'est pas la pédagogie de l'école, c'est le développement de l'instinct et de l'intuition. J'ai essayé tout de suite de remettre dans la langue française les pratiques et disons les poétiques même de l'oralité créole.
Donc petit Édouard court déjà après d'autres langues que le français. Il est très vif d'ailleurs, sous ses apparences bien lisses. C'est un lycéen assez chapardeur. Et son imagination est déjà fertile. Il se trouve qu'en 1941, accoste à Fort-de-France un vieux rafiot, le Paul Lemerle, où ont pris place Breton, Lévi-Strauss, des artistes et des intellectuels fuyant le régime de Pétain pour rejoindre les États-Unis, mais que le proconsul vichiste de Lille retient longtemps. Édouard, d'évidence, est trop jeune pour avoir discuté avec eux. Qu'importe, il se vieillit pour s'attribuer une place dans la rencontre décisive, en effet, qui se produit alors entre les exilés et son aîné, Aimé Césaire, alors professeur au lycée Schœlcher et qui prendra bientôt son envol. Glissant cherchera toujours à rejoindre Césaire d'une manière ou d'une autre.
On avait une organisation de jeunes au Lamotin qui est restée célèbre à la Martinique, qui s'appelait le Franc-Jeu. Le Franc-Jeu, et cette organisation de jeunes était très politique. J'avais 14-15 ans. La nuit, on déclamait des passages du cahier de retour au pays natal d'Aimé Césaire sous les fenêtres des bourgeois dans la petite ville du Lamantin. On écrivait et on publiait sur du papier banane à taper à la machine des poèmes.
Poétique et politique, c'est une démarche réaliste, ça.
Oui, mais nous étions très influencés. Oui. Mais parce, n'oubliez pas qu'André Breton est passé en 1941 à la Martinique avec Lévi-Strauss, avec Max Ernst, avec André Masson, avec Wilfred Olam, avec Pierre Loeb, etc. Et c'est là qu'il a rencontré Césaire. Nous avions cette tradition. En même temps, on faisait les campagnes, les premières campagnes électorales, on les a faites en 45-46, et nous faisions... nous dirigeons la campagne électorale pour le maire communiste du Lamantin et pour Césaire, qui était communiste à Fort-de-France. Et nous avons toujours refusé de nous inscrire au Parti communiste.
Élu et pour un demi-siècle, Césaire fait le choix politique concerté avec la métropole de la départementalisation. De colonies qu'elles étaient, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane deviennent des départements, mais aussi la Réunion. Si éloignées soient-elles les unes des autres, ces terres ont en commun l'usage du créole. Césaire y verrait volontiers un patois, un argot. Ça n'a jamais été le point de vue de Glissant. Créole, créé, même étymologie.
On est prêts ? Parlez, pas parlez.
Parlez.
Bon, et dos. Bon, d'abord, avant que Ni commence, Nana a une phrase hier. Vianney la met sur son cahier. Et Manadjali, la phrase, elle était bon, ça. D'accord? Allez, m'écris vite. Regarde en même temps que m'écris. Emily.
C'est en intellect?
C'est en intellect. Pourquoi c'est en intellect?
Parce qu'il y a le français et le créole en même temps.
Alors, attention, il pose à certaines questions importantes. Quand Vianney l'a écrit phrase là, il était conscient, il avait compris, il était mélange ou il ne comprend pas?
Il ne comprend pas!
Il a pas compris, il a mélange tout. Jordi, nous va faire les deux phrases, les pas mélangées. Nous va faire la phrase en français et nous va faire la phrase
en créole.
Mélange, pas mélange. Bon, on a télescopé les temps, hein. C'est une scène d'aujourd'hui dans une école, et on a mélangé les lieux puisque nous sommes à La Réunion. Et le créole de La Réunion peut paraître incompréhensible en Martinique. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs créoles en Martinique ? Répondrait Glissant. Le créole, c'est dissémination, pollinisation mutuelle. Mais revenons à l'univers caraïbe.
Puisque nous sommes dans l'univers caraïbe, il y a intervention de lexique partiel anglais ou espagnol. Je vous donne un exemple amusant. Les jeunes gens de la Martinique, pour signifier l'expression française « arrête ton char », n'est-ce pas ? Ne te moque pas de moi, arrête ton char. Ils disent littéralement, en créole, « pas fessique et puis moins ». Ce qui signifie, c'est la traduction littérale du français, « ne fais pas de cirque avec moi ». Alors, on voit la transposition « char » à « cirque », n'est-ce pas ? « Arrête ton char, ne fais pas de cirque avec moi ». Mais comme le créole, en créole, on prononce difficilement les R, le mot « sic » peut vouloir dire à la fois « cirque » et « sucre ». N'est-ce pas ? On dit « sic » pour « sucre », on dit « sic » pour « cirque ». Et les jeunes gens de mon pays ont traduit l'expression « pas fait sic et puis moins, en l'expression suivante, don't make sugar with me. Don't make sugar with me. N'est-ce pas, ne fais pas, ils ont anglicisé, n'est-ce pas, ne fais pas de cirque avec moi, pour traduire l'expression. Et à partir de cette intrusion dans la langue anglaise, à cause de la Jamaïque, Trinidad, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais, l'Amérique est toute proche, et ils ont inventé une nouvelle expression, stop seeking. Stop seeking, arrête ton char, ne fais pas de cirque avec moi. Bien. Et par conséquent, il y a ça c'est un exemple caricatural, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que c'est un exemple extrême. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne crois pas que la création ou l'adoption de mots étrangers répondent simplement à un besoin d'utilisation de ce mot, mais répond aussi à ce que le mot peut s'intégrer dans une structure de l'expression. On ne peut pas séparer, à mon avis, les deux choses. Et je pense que dans le monde actuel, il n'y a pas une seule langue qui peut se prétendre sauve des autres.
Cette île, puis ces îles toutes unies, nommez-les.
Monsieur Lebrun, dans les années d'après-guerre, il n'est pas question d'université en Martinique. Cependant, munis d'une bourse, les élèves les plus doués peuvent partir pour la métropole.
Ça n'épargne pas des débuts difficiles à Paris pour le jeune Édouard. Mais il n'y a pas de ghetto antillais dans la capitale. Aussi rencontre-t-il aussitôt d'autres Noirs venus d'un peu partout. La revue Présence africaine l'attire ainsi très vite. Mais, à la différence de Césaire et Senghor, qui la génération d'avant avait scellé une alliance entre Noirs des îles et Noirs du continent africain, Glissant a de suite tendance à multiplier d'autres histoires, d'autres relations possibles.
Le rêve propre à tous les jeunes étudiants en philosophie de l'époque, le rêve de cette espèce d'Eldorado que constituaient les cultures arabo-andalouses. Tout le monde rêvait de ça. Il y avait le mythe d'abord d'une sorte de rencontre dans cette culture qui faisait que on rêvait que Avicenne et Averroès étaient l'un juif, l'autre arabe, et étaient à l'aide de connivence. Et il y avait cette espèce de fascination pour cette période de l'histoire occidentale qu'a été la culture arabo-andalouse. Personnellement, ça m'a prédisposé à la lecture des textes arabes. Et je me rends compte que on ne peut pas distinguer les poèmes écrits par des Arabes des poèmes écrits par des Juifs, alors qu'ils sont écrits dans la même langue arabe. On ne peut pas savoir. Et qu'il y a là une sorte de relation qui me paraît miraculeuse et à laquelle il faudrait peut-être revenir un jour.
Relation. Commençant à publier ses poèmes, Glissant ne va évidemment pas manquer le premier congrès des écrivains et artistes noirs qui, venu du monde entier, se réunit à la Sorbonne en 1956. Notre premier interlocuteur est Alyosha Wald Lazowski. Il vient de publier un Glissant ou Déchiffrer le monde. Glissant se délectait de son nom multiple qui témoignait d'influences diverses de l'Europe de l'Est.
Glissant a 28 ans à ce moment-là, et effectivement c'est un congrès essentiel, fondateur d'ailleurs dans la poétique, la politique de Glissant, puisqu'il y a justement, tous les continents sont représentés, il y a des intellectuels, des diplomates, des artistes venus d'Afrique, venus des Amériques, Amérique du Nord, Amérique latine, mais il y a aussi des intellectuels venus d'Asie, et donc il expliquera même plus tard dans un texte qui s'appelle Philosophie de la relation en 2009, il revient sur ce congrès initial, sur ce congrès originel, en expliquant que les débats étaient multiples, mais comment arriver à se mettre d'accord ? Il y a l'africanisme, il y a le marxisme, il y a l'internationalisme, il y a beaucoup de mouvements politiques qui traversent évidemment ces grandes questions, et il explique que les Américains, comme Richard Wright ou James Baldwin, ne sont pas forcément d'accord avec Césaire, avec Sangor.
Parce que Césaire s'adresse aux Noirs d'Afrique, mais il a du mal à s'adresser aux Noirs des États-Unis.
Et en tout cas, surtout que les problématiques sont pas les mêmes, c'est que les problématiques sont pas les mêmes, et que effectivement, ce qui se passe aux États-Unis est une histoire bien spécifique de la ségrégation raciale, du racisme mis dans la loi même des États-Unis, la question des plantations du sud des États-Unis. Donc il y a des points communs et des points de divergence.
Quel est le commun dénominateur de ce congrès qui unit des hommes aussi différents que des Sénégalais et des Américains du Nord, des Dahoméens et des Antillais, des Nigériens et des Malgaches? La réponse, ou du moins une des réponses, me paraît évidente. Ce commun dénominateur, c'est la situation coloniale. C'est un fait que la plupart des pays noirs vivent sous le régime colonial. Même les pays libres, comme Haïti ou le Libéria, sont des pays semi-coloniaux. Et nos frères américains eux-mêmes sont, par le jeu de la discrimination raciale, placés de manière artificielle et au sein d'une grande nation moderne, placés dans une situation qui ne se comprend que par référence aux mœurs du colonialisme, dont ces mœurs sont d'ailleurs une séquelle.
Césaire, chantre de la négritude qu'on vient d'entendre, a été un des principaux intervenants du congrès. Avec Frantz Fanon, un autre Martiniquais, mais que son expérience algérienne va faire passer dans le camp révolutionnaire. Entre eux, Glissant cherche une voie qui soit la sienne. Le roman va lui permettre de se démarquer de Césaire, qui, au moins dans ce domaine, n'est pas préalable, prééminent. En 1958, Glissant reçoit le prix Renaudot pour La Lézarde.
Glissant est un géant, du moins, quand on est de taille moyenne, on est un nain à ses côtés. Il a sur le front large d'épais et noirs sourcils comme une visière, et son regard et son sourire sous une abondante moustache noire, son regard et son sourire semble venir de très loin.
À l'âge de 30 ans, donc Glissant obtient le prix Renaudot pour ce premier roman, qui ouvre un cycle de 8 romans qui vont être l'œuvre à venir. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce roman ? C'est en fait l'idée que c'est le roman où il faut remonter à la source, hein, c'est-à-dire remonter le fleuve, la lézarde. C'est l'histoire d'un jeune groupe d'adolescents ou de jeunes, garçons et filles, qui prennent conscience en fait de ce qu'est les Antilles et de l'importance d'en faire l'histoire et de s'investir politiquement dans ce lieu. Donc c'est un roman finalement qui est une sorte de roman d'apprentissage au sens Bildungsroman, hein, le roman de la quête de soi, de l'apprentissage. On ne finit pas le roman comme les personnages ne finissent pas le roman comme ils l'ont commencé. Donc il y a cette idée de quête de soi et de quête du lieu et ce qui est intéressant dans La Lézarde, c'est que au fur et à mesure que les personnages qui sont Taël, Mathieu, Mycéa vont faire cette remontée aux origines, ils vont se rendre compte que plus on avance vers l'origine, plus elle est inaccessible, plus elle est impossible.
Paradoxe, la source est un gouffre. Naguère, Césaire avait composé le cahier d'un retour au pays natal. Et lui-même, il s'était demandé, le pays natal est-il vraiment un pays ? Ses habitants sont-ils des vivants ou les morts des plantations ? Ne risque-t-il pas de disparaître à tout instant ? L'année d'après le Renaudot, en 1959, le système de forces politiques fragiles qui régit la Martinique menace d'ailleurs d'exploser. Il a suffi d'un petit incident, un blanc qui emboutit la motocyclette d'un docker noir. Le blanc passe son chemin, le noir le prend au collet et...
Et un rassemblement s'est constitué autour d'eux. Il y avait un métro, il y avait un nègre bien noir... Pas grand, métro assez costaud, donc le blanc était en minorité, les noirs étaient en majorité.
Il y avait tellement de gens qui couraient comme ça, avec des gaz à queue, mais ça brûlait les yeux, partout comme ça. Et puis lui, j'avais peur, moi j'avais peur, moi.
Bon, on peut appeler ça une insurrection, on peut appeler ça une révolte, c'est pas encore la révolution bien sûr, mais vraiment, on s'est vraiment battu, mais physiquement, là, d'ailleurs il y a eu 3 morts, faut pas oublier qu'il y a eu quand même 3 morts, aux îles Marajo et Betzi, il y a eu quand même 3 morts, et sans compter les affrontements avec les forces de police, il y avait un commissariat de police, à la place Staline, je ne sais pas si vous en souvenez, mais enfin, il y avait un commissariat de police là, bon ben, on l'a brûlé aussi, à commencer par moi d'ailleurs, parce qu'il y avait un poste d'essence là. Bon, mais j'avais une Vespa à l'époque. Je me souviens que je suis allé acheter un demi-litre d'essence. On a balancé ça dans le commissariat. Et puis, clac, bon, on a craqué une allumette. Et puis, on a brûlé un commissariat. Mais c'était pas du tout, un acte gratuit, de délinquance. C'était pas ça du tout. C'était un geste. Vraiment un geste militant, un geste politique qu'on faisait parce que nous avions le sentiment de lutter contre les forces d'oppression.
Il y a plusieurs facteurs en fait qui sont mis en avant par Glissant dans des articles, dans des tribunes, dans des conférences, notamment sur l'aliénation, sur les problèmes culturels, sur le manque de moyens pour la jeunesse de Guadeloupe et de Martinique. Il y a des mouvements donc qui s'adressent effectivement aux jeunes, qui posent des problèmes scolaires, d'éducation. Il y a toute une série de problématiques très concrètes en fait que Glissant met en avant, expose, qui concernent bien effectivement le lieu spécifique ici, effectivement des Antilles françaises.
Les Antilles françaises, mais les anglophones, la Guyane, Cuba, castriste, où ses pas vont le mener plus d'une fois. Quel périmètre idéal définir pour l'action qu'il attire un moment, pour sa littérature surtout. La notion de périmètre d'ailleurs est-elle la bonne ? Elle convient à la civilisation méditerranéenne qui naît d'une mer somme toute enclose. Mais que dire des eaux immenses qu'ont traversé les bateaux négriers et qui entourent les Antilles ? Elles semblent n'avoir pas de limite. Les philosophes inventent des concepts, les poètes peuvent aussi le faire, à leur façon, plus mouvante peut-être. Et le premier mot important que Glissant parvient à imposer, c'est « antillanité ». Animateur de la revue « Présence africaine », auteur d'un Glissant ou la nouvelle mesure du monde, notre deuxième interlocuteur, Romuald Foncoua.
L'antillanité, c'est la reconnaissance de ce cofondement de l'histoire de tous ces peuples. Il y a un événement historique qui est beaucoup plus important que ce qui s'est produit en Afrique, c'est l'événement de l'esclavage. Alors là, pour le coup, l'antillanité est fondée sur l'esclavage, et c'est ce qui va donner, justement, dans la littérature de Glisson pour l'époque, une certaine spécificité. Et qui va distinguer, alors là, pour le coup, Glisson de Césaire et de la négritude, de la négrité. Et il y a une antillanité qui s'oppose justement à la négrité, parce qu'elle repose, cette antillanité, sur au moins deux aspects. Un aspect historique, bien sûr, qui est celui de l'esclavage, mais un aspect géographique, qui est celui justement de la spécificité antillaise. Et les Antilles, alors là, pour le coup, réunissent non seulement des territoires qui étaient hier encore des territoires que l'on peut considérer comme étant devenus indépendants, Haïti étant, bien sûr, n'est-ce pas, la tête de proue. Haïti, pour lui, c'est effectivement, du point de vue politique, mais également du point de vue mythique, cette île à partir de laquelle on peut construire justement un monde. Pour lui, l'histoire d'Haïti est une histoire sous-marine dont on peut trouver justement des traces à la Guadeloupe. Et c'est vrai que historiquement, il y a des rapports entre les deux îles, mais dont on peut trouver également traces à la Martinique et à la Guyane à travers le phénomène qui est le phénomène du marronnage. C'est-à-dire qu'en fait, Haïti, c'est, si j'ose dire, le lieu où le marronnage a réussi complètement. Au point de donner une indépendance à l'île. La résistance, l'opposition, la création d'une armée qui est une armée d'esclaves va donner lieu, bien sûr, n'est-ce pas, à une indépendance qui est une indépendance d'une île. Ailleurs, ben, c'est un échec. À la Guadeloupe, ben, les esclaves se font sauter. 300 esclaves généraux de l'armée se font sauter au Matouba. Et cette façon-là de pouvoir penser l'histoire situe toujours l'île d'Haïti dans l'esprit de Glisson comme étant justement un modèle qui va irriguer en fait toutes les îles.
En 1802, au moment du rétablissement de l'esclavage par Napoléon, le chef officier mulâtre républicain Delgrès s'était fait sauter avec sa troupe dans l'habitation d'Anglemont. C'était un mulâtre officier républicain comme à Haïti, Toussaint Louverture.
La terre matrice des pays antillais, Haïti, qui n'en finit pas d'acquitter l'audace qu'elle eut de concevoir et de faire lever la première nation nègre du monde de la colonisation, qui, depuis 200 ans, a éprouvé ce que blocus veut dire, chaque fois renouvelé, qui, sans répit, souffre ses campements et sa mer folle et grandit dans nos imaginaires, qui a vendu son sang créole un $0.5 le litre, qui s'est distribué à son tour dans les Amériques, la Caraïbe, l'Europe et l'Afrique, refaisant diaspora, qui a consumé tout son bois, marquant de plaies arides l'en haut de ses mornes, qui a fondé une peinture et inventé une religion, qui meurt à chaque fois de débattre entre ses élites nègres et ses élites mulâtres tout aussi carnassières, qui a cru qu'une armée était faite de fils de héros, qui a charroyé des mots beaux ou terribles, le mot « makout », le mot « lavalas », le mot « déchouqué ».
Chanter son gros limier pour faire l'espoir grandir. Chantez pour réjouissance, joue, liberté fleurie. Chantez qui dit gourmand pour la vie à vie une belle. Chantez qu'à vie une pi belle, la vie à vie une
Monsieur Lebrun, en 1492, Christophe Colomb a débarqué à Haïti. Édouard Glisson ne va-t-il pas prendre un malin plaisir à bousculer l'interprétation traditionnelle des conquêtes occidentales ?
Glisson appréciait par exemple l'œuvre de Claudel, ce grand chant qui rêvait d'un monde total, mais Claudel C'était le point de vue seulement européen. Glissant dans son propre poème, Les Indes a voulu parler de Christophe Colomb, mais d'un autre colon, tel qu'il avait été découvert par les Indiens. Il voulait mettre l'architecture intérieure des Européens sous le regard des autres. Et raconter aussi l'histoire qui a suivi la rapide expansion de la fin du XVe et du XVIe siècle, avec l'organisation, dans un vaste espace, du système des plantations. Romuald Fonquoy.
C'est la plantation qui est l'unité spatiale de l'esclavage, et je crois que c'est un fait que l'on peut retrouver partout dans le monde qui est régi par l'esclavage. Ce n'est pas simplement valable aux Antilles, c'est aussi valable aux Amériques. C'est aussi valable à Cuba et dans l'Amérique centrale. Il y a toujours, n'est-ce pas, cette sorte de lieu qui est le lieu de la plantation. Parce que la propriété est une propriété qui est bien répartie, bien délimitée, à l'intérieur de laquelle vivent justement à la fois les maîtres et les esclaves. Cette réalité-là est une réalité qui, au fond, va servir en fait d'unité à la compréhension du phénomène économique, social et même parfois religieux qui se produit justement dans l'espace d'une plantation. Puisque la plantation a droit de vie et de mort sur ses esclaves, mais elle a également droit de vie et d'éducation sur eux. Donc il y a là une certaine unité. Et ce qui fait que la plantation est un lieu qui est un lieu important justement de la littérature de Glissant. Mais ce lieu-là est un lieu qui est important en ce qu'il peut être justement un lieu miroir et un lieu de contradiction. C'est-à-dire que face à la plantation, lieu important de l'île, ben il y a justement le lieu qui n'est pas le lieu de la plantation, j'allais dire le lieu de la non-plantation, et c'est le lieu du marronnage justement. Ce sont les mornes, ce sont les collines, c'est la forêt. Donc ce qui est une réalité d'ailleurs de l'espace de ces territoires, même si on remonte à la littérature du XVIIIe siècle, parce qu'il y a toujours justement un espace qui est un espace civilisé, bon, encadré, nettoyé et tout, et le reste autour qui n'est pas maîtrisé du tout, et où les esclaves vont justement se réfugier, se retirer, et à partir duquel ils vont donner des coups de boutoir en général à l'habitation, donner des coups de boutoir à la plantation. Les esclaves ne deviennent libres que pour autant qu'ils ont détruit justement l'habitation, que pour autant qu'ils ont détruit la maison du maître. Et ça devient effectivement, on l'incendie, on empoisonne les puits, on tue les bêtes. Il y a là, bien sûr, quelque chose d'important.
L'habitation. Les nostalgiques du système des plantations insistent sur le raffinement des habitations des Blancs, en harmonie avec la beauté des paysages et en contraste avec la violence des Noirs. Ils ne se lassent pas non plus de redire l'importance du métissage. Et en effet, celui-ci n'a cessé de croître, mais selon Glissant, tant qu'il reste un effet des circonstances et non de la pensée, le métissage maintient les inégalités. L'idée d'une civilisation qui serait supérieure n'est pas bousculée et les bâtards restent des bâtards. En revanche, Glissant lit avec assiduité deux grands écrivains du Sud et encore davantage quand il commence à enseigner à Baton Rouge en Louisiane à partir de 1988. C'est d'une part Faulkner et d'autre part St. John Peirce. Eux deux savaient que le noir des plantations restait insaisissable. Et eux deux se tenaient sur leur bord propre. C'est comme cela que le fleuve pourra passer, chacun se tenant attentif sur son bord.
Faulkner est pour lui le grand écrivain du Sud qui avait sans doute l'intelligence, dit-il, de ne pas vouloir savoir, de ne pas pouvoir savoir ce que pensaient les esclaves noirs. Laissant alors effectivement aux Noirs, descendants des esclaves noirs, la possibilité de pouvoir tenir discours sur eux-mêmes. Et c'est sans doute ce que Glissant appréciait chez Faulkner, comme c'est ce qu'il appréciait également chez St. John Peirce, c'est que l'un comme l'autre ne reniait pas du tout l'appartenance à leur communauté d'origine. L'un comme l'autre ne reniait pas du tout leur histoire. St. John Peirce ne renie pas du tout l'histoire de l'esclavage. Il ne veut pas se mettre à la place justement des esclaves. Il ne veut pas. En même temps, tout comme Faulkner, il existe bien sûr une présence qui est une présence assez grande, à la fois du créole guadeloupéen dans l'œuvre de St. John Peirce et d'une certaine manière de la représentation qu'a été le Sud esclavagiste dans l'œuvre de Faulkner. Et ces deux modèles pour lui qui vont être assez intéressants dans l'écriture de la poésie par exemple et dans l'écriture du roman. C'est cette manière de pouvoir, à partir de son lieu, tenir un discours qui est un discours, n'est-ce pas, général et collectif. Même si on peut penser que Saint John Perse ne parle pas de l'esclavage, c'est faux, il ne parle que de ça. Même si on peut penser que Faulkner ne parle pas de l'esclavage, mais il ne parle que de ça.
Je t'aime, mais terre blessée.
L'ancien maître et l'ancien opprimé, la croyance que l'identité est souche, que la souche est unique et qu'elle doit à tout ballant renchérir. Allez au-devant de tout ça, allez. Faites exploser cette roche. Ramassez-en les morceaux et les distribuez sur l'étendue. Nos identités se relaient et par là tombent en vaines prétentions ces hiérarchies cachées ou qui forcent par subreptice à se maintenir sous l'éloge. Ne consentez pas à ces manœuvres de l'identique. Ouvrez au monde le champ de votre identité.
Monsieur Lebrun, au nom de son refus de l'identique, Édouard Glissant ne va-t-il pas créer son propre glossaire ?
Au nom du principe, allez au-devant. Alors, pour prendre un des exemples les plus connus, créolisation. Si on veut chercher une image, ce serait celle de la tache de mercure qui, sur la paillasse d'un laboratoire, agit, se décompose, se recompose. Ce n'est aucunement la juxtaposition, c'est la mise en mouvement dans un lieu donné de forces qui, ailleurs, pourraient être contradictoires, mais ici et maintenant, vont produire de l'imprévu dans leur diversité. C'est ainsi que Glissant conçoit la relation. Autre mot qu'on a déjà beaucoup employé, et qui pour lui ouvre bien des portes. Il y a l'étang, E-T-A-N-T. Il dirait même les étangs, E-T-A-N-T-S. La relation, les sublimes, les élevant à l'universel. Ces mots ne sont aucunement fixés. Il arrive à Glissant d'y opérer des palinodies silencieuses qui peuvent en modifier le sens. La vérité qu'on atteindrait en grimpant sur un arbre généalogique de la connaissance, ça l'intéresse peu. C'est le vivant qui le requiert. Et en 1993, il produit le mot de son glossaire qui a pénétré peut-être le plus avant dans le public, le tout-monde, Alyosha Wald-Lazowski.
Dans la poétique romanesque de Glissant, c'est-à-dire finalement dans son usage des mots, du vocabulaire, il y a à la fois répétition, ressassement, retour, et en même temps déplacement, errance, transbordement des termes qui sont toujours, qu'on retrouve, mais qui ne sont pas à leur place fixe, à leur place déterminée. Si on lit le cycle romanesque de Glissant, on a l'impression de ressentir toute cette énergie du monde, toute cette puissance du monde créatrice, parce que Glissant nous fait traverser des époques, hein, si on prend le 4e siècle ou le roman Tout Monde, qui sont, plus on avance dans l'écriture romanesque de Glissant, plus les lieux en fait se répondent, se connectent. On est à différentes époques, on est à l'époque de l'esclavage, puis on arrive aux années 1930, puis on retourne en arrière. En fait, on se déplace dans le temps, dans la temporalité, dans l'espace. Je dis ça parce que justement, ça montre aussi cet étirement, cette transformation qui montre cette transformation poétique que ne cesse de proposer Glissant.
C'est que
les Antilles, c'est un peu petit pour cet immense rêve.
Oui, oui. Alors ça, c'est la célèbre phrase de Glissant. Agis dans ton lieu, pense avec le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer d'un lieu qui est un lieu, j'allais dire, d'amarrage, hein, d'ancrage, mais dans lequel, effectivement, on n'est pas déterminé et on n'est pas limité. Et Glissant, effectivement, est un poète voyageur, est un écrivain du tout monde, qui est un terme très important qui arrive, le mot tout monde arrive avec un roman qui s'appelle Tout monde, et en 1993, et 4 ans plus tard, en 1997, le traité du tout monde, qui montre là, effectivement, une multiplication des ouvertures. La langue, c'est un espace de traversée et de transformation, de création. Par exemple, la poétique de Glissant, c'est de retrouver par l'écrit l'oraliture, comme disent les Haïtiens, c'est-à-dire l'oralité, le vocable de la parole, les maîtres de parole. Hein, c'est l'expression effectivement qui désigne le conteur, hein, le conteur créole. Hein, comme le dit aussi Patrick Chamoiseau, le maître de parole. C'est retrouver dans l'écrit la parole. Ça veut dire quand même un dispositif d'ouverture, de déplacement, de repousser les règles de l'écrit pour laisser place à l'oralité. Très important, lorsqu'on lit les textes de Glissant, d'avoir en tête, justement, cet espace, cette présence de l'espace. Ne serait-ce que dans une page, si vous ouvrez La Lézarde ou un roman de Glissant, vous voyez un espacement à même la page. Et vous le voyez lorsque Édouard Glissant fait des énumérations justement de couleurs ou des arbres, des Antilles. D'un seul coup, il y a des traversées dans le texte. Il y a des traversées. Autre exemple, les parenthèses. Glissant ouvre des parenthèses dans ses romans. Vous allez me dire, comme tout écrivain, la parenthèse est un outil syntaxique. Mais là, la parenthèse, c'est un nouvel espace que veut créer Glissant, qu'il véritablement investit autrement que les écrivains classiques. Et l'usage aussi, par exemple, du trait d'union. Je dis ça parce que c'est des présences de l'oralité, de transformation de la langue, du français. Par exemple, le mot « tout monde » avec le tiret. Le mot « chaos monde » aussi avec un tiret. Le mot « lieu commun » avec un tiret chez Glissant. Le tiret, c'est justement un mot de liaison, de relation. Et Glissant le prend vraiment comme un espace syntaxique extrêmement fécond et utile pour déplacer des termes et pour les rapprocher et pour les mettre en relation. Donc, on voit comment la langue, en fait, écrite, parce que Glissant est un écrivain et donc nous offre des œuvres écrites, elles sont elles-mêmes des œuvres où l'oral est très très important et qui vient contaminer, disséminer les règles classiques.
Et si on prend l'exemple des formes musicales qu'a beaucoup utilisé Glissant, on l'a entendu à la trompette avec Jacques Courcil, il allait souvent au festival du Zest avec Bernard Lubat. Une distinction est à faire entre la rengaine, c'est la répétition, et la ritournelle qui déplace un peu les points de vue.
Le mot ritournelle qui vient effectivement de l'italien ritornello et qui est en fait une pause dans une pièce de théâtre ou dans une scène musicale où en fait un instrument ou une voix reprend à sa façon un thème déjà présent dans l'ensemble de la pièce ou dans l'ensemble de du morceau. Et donc ritornello, c'est ce moment où d'un seul coup il y a à la fois un écart avec ce qui est prévu, annoncé, et en même temps c'est une reprise, on retrouve le thème musical. Sauf que ce qui est intéressant dans la poésie ou la philosophie, c'est de distinguer ritournelle de rengaine. Parce que la rengaine, c'est une répétition qui ne mène qu'à l'identique, qu'à la même chose finalement, alors que la ritournelle, il y a répétition, mais il y a aussi déplacement. Il y a répétition, mais il y a aussi surprise, inattendue. Et la ritournelle qualifie bien la poétique de Glissant, qui justement revient sur les Antilles, les Caraïbes, l'histoire des Amériques, mais toujours pour voir cette histoire sous un œil nouveau, avec une autre sonorité, une autre résonance. Et la ritournelle offre justement à ce qu'on pensait connaître quelque chose de nouveau et d'inattendu.
Que renaissent les lys sauvages, renaissent les dieux en amont, vrais dieux, vraies hordes, les Saturnes, Ogun, les sirènes, les lys. La mer sagace est entrée là, elle a plani surface, elle a fêlé aux broussailles son val, égalé souffrance et frontale. Ce qui reste de jour s'enferme dans un bord d'eau, sous un ventail. Un homme y joute à ce travail en parental décimé.
Les moussetins étaient d'Espagne et de Pérou, la mer si proche. Attendez que s'y marque lent sur une rose qui ne vèle. Quel augure de mélessée la rumeur qui tarit là-bas. Au nœud de branche où prend l'ennui, recroquevillé lentement.
La facilité, ce serait de consommer la créolisation comme une guimauve. Mais la créolisation selon Glissant n'est pas nécessairement heureuse. C'est pas du moralisme, c'est pas la certitude d'un progrès. Les routes n'en sont pas bien damées. L'histoire peut y faire des têtes à queue. Aux Antilles, par exemple, on entend des déclarations agressives qui peuvent être faites par tel ou tel ancien disciple de Glissant, du genre « Ici, nous sommes des Martiniquais, des Antillais, des Créoles et rien d'autre. Si vous voulez jouer aux nègres blancs, aux nègres français ou aux français noirs, c'est votre problème, mais allez le faire en Afrique. » Je cite un texte assez récent de Raphaël Confiant. Ce genre de propos n'est pas exactement du Glissant dans le texte. Autre exemple de mouvement de ressac qui peut mettre en échec la créolisation. Aux États-Unis, Glissant, qui se reconnaissait en la personne d'Obama et s'était réjoui de son succès, qu'il regardait comme inespéré, est mort trop tôt pour enregistrer la secousse en retour du trumpisme. C'est précisément le genre de réplique que peut provoquer la créolisation. En même temps, quand il s'est produit un bien, il y a davantage de chances qu'il fasse système que le mal qui a pu en résulter.
On nous dit, et voilà vérité, que c'est partout déréglé, déboussolé, décati, tout en folie, le sang, le vent. Nous le voyons et le vivons, mais c'est le monde entier qui vous parle, partant de voix bâillonnées. Où que vous tourniez, c'est désolation. Mais vous tournez pourtant.
Nos remerciements à Romuald Foncoua, qui a publié chez Champion Glissant, une nouvelle mesure du monde, et à Alyosha Wald-Lazowski chez Bayard, son dernier livre sur Glissant, Glissant ou déchiffrer le monde. Grégoire Roqueplot a prêté sa voix au poète, à la technique Yves Lehors, un enfant des Outre-mer, et à la maison de la radio et de la musique, Tiffany Battistel. Les agents d'intelligence service, Frédéric Martin, Franck Olivard, et la réalisation, Audrey Ripouille et Étienne Bertin.